1983, le président François Mitterrand a institué, face à l'avancée des technologies en biologie et techniques de reproduction, a institué un comité consultatif national d'éthique. Ce comité a travaillé, je passe sur les détails, ça fait plus de 40 ans maintenant qu'il a fonctionné. Est-ce que vous m'entendez au fond ? Bon, et au courant des années 90, à la suite de ces travaux, il a été décidé que le Parlement prendrait tous les 6-7 ans, enfin, à voter une loi de bioéthique pour encadrer les progrès qui se faisaient dans le domaine de la reproduction et du travail sur les cellules humaines. Et en même temps, il a été décidé que tous les 6-7 ans, la même loi serait revue, car étant donné les progrès, et ça s'est révélé heureusement ou malheureusement juste par la suite, étant donné les progrès techniques et scientifiques dans ce domaine, il fallait régulièrement revoir la loi. C'est pourquoi, en 2019, le 15 octobre, l'Assemblée nationale vient de voter en première lecture une nouvelle loi, une révision de la loi de bioéthique, dont les quatre premiers articles portent sur l'extension de l'assistance médicale à la procréation. Alors on dit souvent procréation médicalement assistée, mais d'un point de vue technique, la procréation n'est pas le fait des médecins ou de l'hôpital. Donc c'est une assistance à la procréation médicale, AMP. Mais il m'arrivera peut-être de dire PMA aussi, ça n'a aucune importance, grande importance. Donc, ouvrir, c'est l'article 1 d'ailleurs de cette nouvelle version de la loi de bioéthique qui en comporte 32 articles, mais disons que les articles, à partir des articles 5, ça devient trop technique et peu vraiment intéressant. Donc, l'attention se porte surtout sur les quatre premiers articles qui ouvrent l'assistance médicale à la procréation aux couples de femmes homosexuelles mariées et aux femmes seules. Et puis, quatrième article 4, transforme les règles de la filiation de façon à ce que les enfants nés dans ces conditions puissent être considérés comme des enfants non stigmatisés, non mis à part, mais intégrés dans tous les codes d'ailleurs. C'est extrêmement technique, la loi est elle-même quelque chose de technique, et ensuite l'insertion de ces visées dans le code de la santé publique, dans le code de droit civil, etc., sont des choses extrêmement techniques et complexes. Voilà. Le 15 octobre, premier vote, largement majoritaire par l'actuelle Assemblée nationale. La loi doit passer encore devant le Sénat au courant de l'hiver, et en deuxième lecture, elle sera sans doute adoptée au courant du printemps 2020. Vous m'avez fait venir, enfin le sujet, vous m'avez fait venir, peu importe qui vient, le sujet de notre réflexion commune porte sur que pensent les protestants de cette innovation, de cette avancée. L'assistance médicalement assistée étant actuellement réservée uniquement aux couples hétérosexuels dont l'un des membres, le plus souvent l'homme, est stérile. Alors, qu'en pensent les protestants ? D'abord, la formulation est très protestante. Je suppose que Françoise Nissen, la dernière fois, avait un vocabulaire, ne pouvait avoir qu'un vocabulaire un peu différent. D'un point de vue catholique, on dit « qu'en pense l'Église ?» Les protestants, ils s'en fichent. ne s'en fichent pas, puisque je vais essayer de vous montrer qu'ils ne s'en fichent pas de ce que pense leur église ou leurs églises. Mais enfin, c'est bien ce que pensent les protestants. Et les protestants n'ont pas de magistère. Ils n'ont pas de magistère de façon dogmatique, encore moins de façon éthique. Chaque protestant se considère un peu comme un pape à sa manière. Et donc, ce que pensent les protestants, dans un premier temps, est laissé à la responsabilité de chacun. Je vais y revenir. Dans un sondage, car cette nouvelle loi de bioéthique, où ces quatre, notamment en ces quatre premiers articles, a été préparée, la rénovation de la loi a été entrevue bien en amont. Il y a eu le comité national consultatif d'éthique a été consulté. Il y a eu des réunions par région entre médecins, psychologues, enfin, sur la question. Le Conseil d'État a été consulté, etc., etc. Donc, dès 2017, on savait ce qui était en jeu. Et le journal Réforme, l'hebdomadaire Réforme, que certains d'entre vous connaissent peut-être, a fait à cette occasion un sondage sur justement les protestants, 1000 protestants, non pas tirés au sort, mais vraiment représentatifs de la population protestante. Et le résultat, c'est que, je veux le dire très... Alors, on va mettre de côté la GPA, parce qu'il n'y a pas seulement l'AMP, la GPA, c'est la gestation pour autrui. J'y reviendrai, mais laissons-la pour l'instant de côté. La GPA a été rejetée relativement massivement parmi ces protestants. Pour ce qui est de l'assistance médicale à la procréation, 47% de l'ensemble des protestants sondés étaient favorables, 53% étaient plutôt défavorables. Ces chiffres variantes, donc vous voyez, c'est relativement équilibré, avec quand même une légère majorité en faveur du défavorable, mais les chiffres variaient encore plus selon que l'on considérait ce que faisait le sondage, des protestants qui fréquentaient régulièrement le temple, des protestants pratiquants, des protestants pratiquants occasionnellement et des protestants non pratiquants. Et là, ce n'est pas un scoop, on aurait pu l'imaginer, les protestants pratiquants étaient plus largement défavorables à l'ouverture de l'AMP aux couples de femmes homosexuelles ou aux femmes seules. Les protestants non pratiquants étant, eux, plutôt, même à raison de 2/3 en gros, favorables à cette ouverture. Comment avancer dans la réflexion? D'une manière, je vais procéder en deux temps. D'abord, dire quelques mots d'une manière générale sur la façon dont, dans le protestantisme, on envisage ou on peut envisager les questions éthiques, étant évident que les questions éthiques ne se résument pas à des questions de bioéthique. Comment est-ce que, dans le monde protestant, quels sont les repères, quelles sont les valeurs principales que l'on met en avant pour construire un projet éthique, qu'il soit maintenant individuel ou qu'il soit communautaire. Et puis, dans un deuxième temps, je viendrai à l'analyse d'un document fourni en 2018, donc il y a maintenant 18 mois, par la Fédération protestante de France elle-même, sur la question. En effet, le Parlement, Sénat et Assemblée nationale consultent sur les sujets qu'ils abordent, consultent les gens qui veulent bien consulter, mais qui généralement ont quelque chose à dire, et notamment la Fédération protestante de France, comme l'épiscopat français, comme sans doute, je ne sais pas, les bouddhistes ont dû être aussi consultés par un groupe de députés qui se consacraient à la question. Et donc, pour pouvoir répondre à ces interpellations, la Fédération protestante de France a fourni un texte dont je vous parlerai en deuxième partie. Alors tout d'abord, comment est-ce que le protestantisme, d'une manière générale, construit une réflexion éthique? Comment il se débrouille face, ça pourrait très bien être à la mondialisation, ça peut très bien être à la question des immigrés, ça peut, enfin bon, toutes les questions morales et éthiques, en fonction de quel type de repère le protestantisme se situe-t-il? Je l'ai dit, il n'y a pas de magistère. Et, d'un point de vue ecclésial, il n'y a pas non plus une église. D'ailleurs, le terme même d'église est souvent employé surtout dans ce que j'appelle, moi, la France de l'intérieur, parce que, pas vous trop vous scandaliser, mais les trois départements, enfin, catholique, protestant et le catholicisme, le protestantisme et le judaïsme, dans les trois départements de l'Est, Moselle, Haut-Rhin, Bas-Rhin, où j'ai eu l'honneur de présider le protestantisme, sont concordataires. Et donc, c'est encore un peu différent de ce qui se passe ici dans le reste du pays. À l'intérieur, disons. À l'intérieur. Donc, dans le protestantisme de l'intérieur, donc de l'Église protestante, désormais de l'Église, essentiellement de l'Église protestante unie de France, rassemblant depuis 2013 réformés et luthériens dans la France de l'intérieur, on parle, lorsqu'on emploie le terme d'Église, et les pasteurs ici présents confirmeront ou démentiront, on parle d'Église, c'est l'Église locale, c'est la paroisse. Ce n'est pas du langage catholique, ce n'est pas non plus du langage protestant de l'Est. Une église, c'est plus qu'une paroisse. Il y a des paroisses, et l'église, c'est un ensemble de paroisses. Mais, dans ce langage protestant d'ici, et qui n'est pas que d'ici, qui est plutôt congrégationaliste, l'église est une église, d'abord une église locale. Et donc, alors pour construire quelque chose, une éthique en commun, c'est pas simple. Il n'y a pas un évêque, il n'y a pas un synode, il y en a, d'accord, mais il n'y a pas une conférence épiscopale qui décide et dit, voilà, c'est comme ça que vous devriez penser. Chaque catholique, ensuite, étant libre de faire, je pense, ce qu'il veut. Donc la Fédération protestante, donc, ces ensembles de congrégations, d'églises, de paroisses, se rassemblent, pour ce qui est de la France, les trois départements de l'Est compris, en Fédération protestante de France. Mais la Fédération protestante de France, c'est 25, non pas paroisses, mais 25 communions, 25 églises différentes. Luthériennes, réformées, évangéliques, pas tous les évangéliques, parce que certains, vous verrez au courant du mois de février, sont réunis au centre, au sein du Conseil national des évangéliques de France, le CNEF. Donc une partie des évangéliques sont quand même dans la Fédération protestante de France. Certains évangéliques sont d'ailleurs des deux côtés, les deux pieds, en partie la Fédération protestante de France, en partie au sein du CNEF, du Conseil national des églises, ce qui pose d'énormes problèmes en ce qui concerne le calcul des cotisations. Donc, voilà, la Fédération protestante de France, c'est une belle et grande chose. J'ai eu aussi l'honneur d'en être le vice-président pendant quelques années. Mais c'est très compliqué à gérer, et on le verra peut-être sur un point précis, à savoir la bénédiction des couples de même sexe. Cela dit, malgré ces difficultés, à savoir que, manière d'individualisme, et en ce qui concerne la communauté ou les communautés un certain éclatement. Le protestantisme réussit quand même à avoir un certain nombre de lignes directrices en matière d'éthique. Lesquelles ? Premièrement, la Bible. Parole de Dieu. Le hic, et tout particulièrement à la matière de l'AMP, c'est que la Bible est assez contradictoire. Elle n'est pas d'une lecture, d'une limpidité énorme. Exemple, le plus connu sans doute, Abraham, Ismaël, Isaac. Abraham, à un moment donné, trouvant que c'était un peu long, que l'accomplissement de la promesse de Dieu qui lui avait promis un fils était longue et tardait à se réaliser, eh bien, prend une servante de Agar, de Sarah, a avec elle un fils, Ismaël. Très bien, si c'était, enfin très bien. Mais ça montre que ce genre de pratique n'est pas condamné. Nulle part dans la Bible, on dit quelle horrible chose a fait Abraham et Agar. C'est même encore, d'un point de vue moral, un peu plus délicat cette affaire, puisque Sarah, alléluia, ayant réussi à mettre au monde Isaac, elle trouve que Agar n'a plus rien à faire dans la maison, si j'ose dire, ou sous la tente, et elle oblige Abraham à renvoyer Ismaël et sa mère Agar. Donc, référence à la Bible, d'accord, sauf que la Bible est plurielle, elle aussi. C'est fondamentalement une excellente chose, mais ça ne nous aide pas beaucoup en la matière. Deuxième élément, la responsabilité. Je pense que le terme de responsabilité est central, avec les deux nuances que le terme a en français. Être responsable, c'est d'abord... La responsabilité, c'est d'abord une imputation. Je suis responsable de ce que je fais. On m'impute tel ou tel accident, s'il y en a eu, telle ou telle faute. On répond de ses actes. On répond finalement de soi. Être responsable, c'est donc être capable de répondre de ce que l'on fait. Et puis, le deuxième sens du mot responsabilité, eh bien, c'est être responsable, c'est répondre à un appel. C'est répondre à une demande. Cette demande étant en l'occurrence celle de Dieu, notamment transmise à travers sa parole qu'est la Bible, qui doit bien avoir un centre. Tu aimeras ton prochain, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. Et si on voulait revenir, évidemment ce n'est pas le moment de le faire maintenant, mais sur le cas d'Abraham, de Sarah et d'Agar, si on voulait avoir un jugement, le jugement serait, est-ce que vraiment la solution qui a été trouvée, là, dans ce cas, répond à l'amour du prochain. Donc, premièrement, je redis, la parole de Dieu. Deuxièmement, assumer sa responsabilité, dans les deux sens du terme, assumer ce que l'on fait, être capable de, donc c'est l'imputation, je réponds de mes actes, et je réponds. Comment je réponds de mes actes? Eh bien, j'y réponds en essayant de répondre aux appels qui me sont adressés. Troisième élément fort d'une perspective morale protestante, c'est la culture du débat. Bien sûr, il y a cet éclatement, bien sûr, il y a d'une certaine manière des perspectives individuelles, mais... Et donc là, on pourrait dire c'est négatif. Où est-ce que tout ça nous mène? Le négatif peut devenir et devient positif lorsque les différents points de vue, les différentes facettes, les différents charismes les différentes perspectives des uns et des autres entrent en débat et que du débat surgit, peut surgir, non pas tout simplement des différences et des divergences irréconciliables, mais une position commune. Alors, dans ces trois éléments structurants étant rappelés, sur cette base, la Fédération protestante de France, qui réunit, je redis, aussi un certain nombre d'œuvres, j'entends par œuvres, des établissements, des institutions qui justement s'occupent du prochain, la CIMAD, différents établissements qui s'occupent de personnes handicapées, bon, j'en passe. La CIMAD,
c'est très bien.
Oui, qui s'occupe des migrants. Il n'y a pas qu'elle en France, heureusement. Donc, comment au sein d'un organisme... Alors, mais l'essentiel quand même, la colonne vertébrale de la Fédération protestante de France, c'est le protestantisme historique, ou le protestantisme mainstream, si vous me permettez de parler un français châtié. Donc, le protestantisme historique, c'est-à-dire essentiellement des luthériens, en gros, dans cette mosaïque de protestantisme, les luthériens et que rassemble la Fédération protestante de France, les deux tiers sont luthériens réformés à l'origine et désormais unis, tant en Alsace-Moselle que, encore mieux, en Alsace-Moselle, on n'a pas pu faire une église unie à cause des articles organiques datant de Napoléon. Mais enfin, je passe. Donc, comment fait-on pour réunir tout cela? Eh bien, régulièrement, en matière éthique, et j'y viens en matière de bioéthique, on fournit, la Fédération protestante de France fournit des éléments de réflexion. Elle ne fournit pas le dogme éthique, oh là là, ça ce serait sans doute impossible en termes protestants, d'avoir un dogme éthique et de dire voilà ce qu'il faut faire au nom de l'Église, mais elle fournit des éléments de réflexion. Et ces éléments de réflexion, et donc il y a eu depuis les années 80, c'est-à-dire depuis que ces problèmes de bioéthique se posent, il y a eu toutes sortes d'éléments de réflexion sur, sur les questions bioéthiques, sur la procréation, l'assistance médicale à la procréation. Donc, voilà ce qui est remis aux paroisses, aux églises locales, aux fidèles. Ça les amène, quand ils le lisent, ou quand ils à réfléchir et à débattre entre eux. D'une manière générale aussi, les perspectives ainsi ouvertes sont plus, disons, sont moins rigoureuses. Je ne sais pas si le terme est adapté, sont moins impératives que dans d'autres traditions religieuses ou ecclésiales. Ça a été notamment le cas, et alors totalement le cas, pour la contraception. Le protestantisme, d'une manière, enfin le protestantisme historique de la Fédération protestante de France, a été dès les années 60 particulièrement pro-contraception, enfin parenté responsable. Parenté responsable, pas contraception pour la contraception, mais parenté responsable et actif au sein des structures qui essayaient de mettre en place cette perception. De même pour l'IVG, la position de la Fédération protestante de France a été une position plus nuancée qu'un non définitif. Vous allez voir que dans les éléments que concernant l'AMP et la GPA, en 2018, la Fédération protestante de France va quitter son vocabulaire habituel. Il ne va pas y avoir d'éléments de réflexion, mais il va y avoir une interpellation. Donc, mais je Ce sera la deuxième, c'est la deuxième partie de mon propos. De même, pour ce qui est du mariage pour tous, alors là, c'est... Je laisse la question un peu ouverte parce que ce serait assez long, mais je suis tout à fait prêt à en parler. Y répondre. En 2012, avant le vote de la loi pour le mariage homosexuel, en 2012, la Fédération protestante de France se positionne contre toutes les formes d'homophobie. Il faut garder cela en tête lorsqu'on abordera le problème spécifique de l'AMP ouverte aux femmes homosexuelles et à toutes les femmes. Toute forme donc contre toute forme d'homophobie. Et puis, et je cite, la Fédération protestante de France considère que considérer toutes les formes de sexualité comme indifférentes reviendrait en fait à empêcher toute rencontre véritable et tout métissage réel. C'est-à-dire qu'en 2012, j'étais présent, j'ai voté cela, et je le revendique aussi, c'était contre le mariage pour tous. C'est dit, nous considérons que toutes les formes de sexualité ne sont pas indifférentes, car les considérer comme indifférentes reviendrait à empêcher toute rencontre véritable et tout métissage réel. Comme tous les citoyens et citoyennes français le savent, en 2013, la loi est votée ouvrant le mariage aux personnes, aux couples homosexuels. Et dans cette perspective, l'Église unie de France, de l'intérieur, pas des trois départements de l'Est, en vient, par son synode de 2014, à 7, à ouvrir la possibilité de bénir des couples de même sexe. Mais ça, c'est une question qu'on peut aborder dans les questions, mais que je n'approfondirai pas maintenant. J'en viens à ma deuxième partie, à savoir l'assistance médicale à la procréation et la GPA, c'est-à-dire la gestation pour autrui, en terre protestante française. Et donc, désormais, on sait que ce terre protestante française, c'est la Fédération protestante de France. En février, vous verrez avec le CNEF comment les évangéliques se débrouillent sur ces questions. C'est d'ailleurs pas si différent que la manière dont se situe la Fédération protestante de France. Donc, le 11 avril 2018, le Conseil de la Fédération protestante de France adopte un texte préparé par sa commission d'éthique et qui s'intitule Interpellation protestante sur l'assistance médicale à la procréation et la gestation pour autrui. Et vous noterez, je l'ai déjà évoqué en passant, ce changement de vocabulaire. Il s'agit plus tant d'éléments de réflexion, ça reste toujours des éléments de réflexion, mais c'est carrément une interpellation. Alors, qui se trouve interpellé ? Eh bien, justement, la société tout entière, et tout particulièrement le gouvernement et le Parlement. On est en 2018, le président de la République, élu un an auparavant, a eu des paroles extrêmement aimables envers les confessions religieuses du pays, en parlant d'elles comme étant des vigies de la République, et paroles de pape, toujours d'un point de vue protestant, on ne sait pas ce que ça vaut, mais parole de la... c'est une blague, bien sûr. Mais parole du président de la République, ça a du poids. Et donc, du coup, la Fédération protestante de France s'est considérée comme une des vigies de la République et qui, à ce titre-là, se devait d'interpeller le gouvernement, le Parlement et la société tout entière. Alors, ce document de 18 pages, mais enfin bon, 18 pages, ça dépend quel type de caractère on utilise. Pas, les caractères moyens font 18 pages, vous pourrez très bien le... Enfin, c'est quand même c'est un document intéressant. Et ce que je voudrais faire maintenant pour terminer, pour les 20 minutes qui me restent, c'est vous présenter l'essentiel de ce texte de 18 pages. Tout d'abord, les quatre premiers points insistent sur le fait, reprend le terme d'interpellation et insiste sur la façon dont le protestantisme adopte là une posture chrétienne et citoyenne. Ce qui va suivre se veut posture chrétienne et citoyenne, qui repose sur un certain nombre de convictions. La vie est un don de Dieu, l'être humain est un être en relation, et il appartient aux chrétiens, d'une manière générale, d'avoir le souci des plus faibles et de ne jamais oublier la justice sociale. Mais cette posture citoyenne se présente ensuite comme, surtout, comme ne cherchant pas à imposer un point de vue, une position. Mais, et on retrouve là tout le style protestant, à côté et avec d'autres, contribuer, alors à côté et avec d'autres, il s'agit d'à côté et vers d'autres positions religieuses, mais aussi agnostiques, avec tous les citoyens du pays, contribuer à rechercher des solutions respectant notre commune humanité et les droits de l'enfant. Par ailleurs, et là c'est presque un petit peu, comment dirais-je, il y a un côté un peu humoristique à la chose, encore une fois, le texte, sachant qu'il va prendre une position, on sait que, j'ouvre la parenthèse, que 2/3 des Français sont favorables à cette ouverture de l'AMP aux couples de femmes homosexuelles et à toutes les femmes. 2/3, donc c'est l'opinion commune, si vous voulez. C'est l'opinion commune dans notre pays, c'est l'opinion du gouvernement, c'est l'opinion de la majorité des parlementaires qui s'est traduit donc le 15 octobre dernier. Donc, la Fédération protestante de France, qui pour une fois ne va pas être pour une paternité responsable, une certaine forme d'ouverture à l'IVG, elle va se montrer beaucoup plus réservée, elle interpelle, elle sait que l'opinion qu'elle va présenter pour une fois ne va pas aller dans le courant majoritaire de la société, mais va se révéler dissidente. Et alors, du coup, la fédération, le texte, se rappelle que ma foi, à juste titre, se rappelle tout particulièrement à ce moment-là, qu'être protestant, c'est être dissident. C'est de ne pas être comme les autres. Et le texte en question demande que soit respecté, à mon avis, alors de façon parfaitement justifiée, demande que soient respectées toutes les opinions dans le pays et que ne soient pas maltraitées, traitées comme ringardes, comme, ne soient pas disqualifiées comme réactionnaires, des opinions qui pourraient être, ne pas se situer dans le courant majoritaire de l'opinion publique et de l'opinion gouvernementale. Donc, voilà, pour une fois, être protestant, ben c'est vrai, c'est aussi ne pas croire comme tout le monde, ne pas agir forcément comme tout le monde, et donc cette demande de respect d'une forme de dissidence et d'une forme de désaccord avec l'opinion majoritaire mérite d'être soulignée. Donc, voilà la première grande partie de ce texte qui se présente comme exprimant une posture chrétienne et citoyenne. Deuxième grande partie, il y en a quatre, je crois. Il y en a trois. Trois grandes parties et une conclusion. Donc, deuxième grande partie, rappel de l'ancrage théologique protestant en la matière. Tout d'abord, le protestantisme, d'après le texte, refuse une éthique purement naturelle. Ça, c'est déjà en tension avec le catholicisme qui, très souvent, quand même, parle de droit naturel, de droit de la nature. Là, non, ce n'est pas parce que une chose est, ou une situation est, qu'elle doit être. Et le protestantisme, si on revient aux questions de procréation médicalement assistée, pas de procréation médicalement assistée, de parenté responsable, on voit très bien que c'est pas parce que, pour le protestantisme, ce n'est pas parce que la nature fonctionne mécaniquement ou biologiquement de telle manière que le couple ou les parents à venir doivent se plier au mode de fonctionnement de cette nature-là. Donc, rappel du fait que le protestantisme ne se plie pas tout simplement, ne se présente pas comme ayant une éthique purement naturelle. Et inversement, et ça, si vous voulez, dans la discussion, on pourra y revenir, parce que ça me paraît être un très gros problème pour nos sociétés actuellement. Le protestantisme ne veut pas produire une éthique purement technicienne. Ce n'est pas parce que une chose est faisable qu'elle doit être faite. Donc ce n'est pas parce qu'elle est naturelle qu'elle doit être entreprise, ce n'est pas non plus parce qu'elle est faisable techniquement qu'elle doit être réalisée. Ça, c'est, me semble-t-il, c'est un des, j'ouvre une parenthèse personnelle là, c'est un des grands problèmes de nos sociétés du XXIe siècle, notamment. On l'avait déjà vu, ou on pouvait commencer à le voir avec la bombe atomique. Hein. On le voit... voilà, avec ces formes de communication échevelées et à tous les niveaux perturbent et reconstruisent notre monde, le monde que nous vivons, à leur guise. Donc, actuellement, d'une manière générale, on a tendance à dire, indépendamment des questions de l'AMP, ce qui est possible techniquement doit être fait. A-t-on raison de se conformer à ce principe ? Et rappeler d'ailleurs à ce propos un propos de l'apôtre Paul dans la première lettre aux Corinthiens au chapitre 6. Je cite de mémoire, ce n'est pas tout à fait exact. Mais je suis libre, dit Paul, tout est bon, mais tout n'est pas utile. Comment traduit-on aujourd'hui, ou peut-on traduire aujourd'hui, cette réflexion qui, elle, date d'il y a 2000 ans et concernait beaucoup plus les règles alimentaires du judaïsme. Je suis libre, je peux faire ce que je veux, Dieu ne me condamne pas à ce propos, mais tout est-il utile ? Et donc, on revient à notre question d'assistance médicale à la procréation. Toujours dans cette deuxième partie du document de 2018 de la Fédération protestante, il est rappelé que la liberté, être libre justement, ce n'est pas tomber dans un individualisme sans limite. Ou dans le copinage avec l'offre, avec la loi de l'offre et de la demande qui aboutit toujours, presque toujours, à la loi du plus fort. Et là aussi, il y aurait beaucoup à, enfin, Il y aura heureusement des groupes de discussion tout à l'heure. Ça vaut la peine d'y réfléchir. La liberté ne peut se vivre, dit le document, que dans l'amour de Dieu et dans l'amour du prochain, et non pas dans la réalisation de ses propres désirs et de ses propres fantasmes. Enfin, il est rappelé que le but du mariage est bien une relation d'amour, ce n'est pas la procréation est quelque chose qui, dans la perspective protestante évoquée, la procréation n'est pas le but du mariage, c'est une grâce du mariage qui peut être donnée ou ne pas donnée, mais ce qui compte avant tout, c'est la relation à autrui. Enfin, il nous est demandé d'évaluer les techniques de procréation et leur emploi à la lumière de leur capacité à préserver ou non le respect des liens humains de couple et de filiation qui nous tissent. Troisième et dernière partie, qui est la partie la plus interpellante, mais qui est aussi la plus connue, si j'ose dire, car elle n'est pas propre au protestantisme. Ok, dit le texte, pour les avancées du traitement de l'infertilité, notamment lorsqu'il s'agit de couples hétérosexuels qui ne peuvent pas avoir d'enfants. C'est le discours qu'on répète depuis les années 90 du siècle dernier. Donc ok pour ces avancées de traitement de l'infertilité, la Fédération protestante de France ne se pose pas comme contestatrice de tout acte médical en la matière. Mais les possibilités qui s'ouvrent en ouvrant l'AMP aux couples de femmes homosexuelles ou de femmes seules se heurtent à un certain nombre de difficultés et sans doute de limites. Par exemple, il faut savoir que les tentatives de fécondation in vitro ne réussissent en moyenne que dans 23% des cas. Et donc, que, avant de se plonger, dit le texte, avec une certaine euphorie dans une position qui ne ferait aucune discrimination, eh bien, on ouvre en même temps, il faut savoir qu'on ouvre la porte à ces couples, il faut peut-être les prévenir, des difficultés, enfin les prévenir ça, on verra dans la discussion, se rappeler que ce n'est pas si simple et que ce n'est pas sans une forme de souffrance et de douleur. Se rappeler aussi qu'il y a des causes sociales à l'infertilité. Que de toute manière, on aura toujours besoin de sperme. Or, dès à présent, le sperme recueilli pour les couples hétérosexuels infertiles, les réserves sont limites. Et donc, si on ouvre à une demande supplémentaire, couple de femmes homosexuelles et femmes seules, à ce moment-là, on risque de se trouver en pénurie de sperme. On sait, on ira le chercher en Norvège, où il y a des réserves, semble-t-il, relativement abondantes, mais qui sont coûteuses, qui se payent. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a des réserves un peu plus abondantes qu'en France, où justement la loi, jusqu'à présent, exige toujours que les dons de sperme soient gratuits. En conclusion, oui, se pose encore, je rajoute cela, les difficultés que la mise au monde d'enfants dans des couples de femmes, les questions de filiation seront extrêmement difficiles à résoudre, tant sur le plan juridique, mais ça semble-t-il, les techniciens du droit, Conseil d'État, etc., ont réussi à s'en sortir sur le plan juridique, que sur le plan psychologique. Et j'entendais encore récemment un médecin recevant un enfant malade et disant, bon, enfin, il voit l'enfant, il l'ausculte, puis l'enfant lui dit, c'est une petite fille de 7-8 ans, lui dit, je vais retrouver papa. Et dans la salle d'attente, papa, c'était une femme. Alors, quoique le médecin en question ait l'esprit particulièrement ouvert, il s'est trouvé un peu interpellé par cette présentation d'une dame comme étant papa, et se demander quelles conséquences au niveau de l'acceptation sociale cela peut avoir, un enfant qui vient en classe et qui présente, enfin qu'un des parents l'attend et qui dise à ses camarades, c'est mon papa, alors qu'il s'agit d'une femme. Alors, les conclusions. La Fédération protestante de France, vous l'avez deviné, se déclare réticente, n'est pas opposée. Et on verra à la suite de vos discussions, et peut-être en conclusion de cette soirée, dans quelle mesure on peut être opposé, mais réticente. Donc la Fédération protestante de France se déclare réticente à l'ouverture de l'insémination artificielle aux femmes célibataires et aux couples de femmes qui ne sont pas infertiles d'un point de vue alors naturel et technique. Ben, les deux femmes, elles peuvent être fertiles, simplement c'est un couple de femmes et pas un couple homme et femme. Et je cite la conclusion, concernant l'AMP. Il nous paraît en effet dangereux d'encourager la fabrication d'enfants à la demande, et les situations qui privent volontairement un enfant de son père et pourraient l'exposer à des risques psychologiques et à des discriminations sociales. Il en va d'ailleurs également, poursuit le texte, de notre responsabilité à l'égard des générations futures. En ce qui concerne la GPA, je n'en ai pas parlé plus longtemps, mais tout simplement parce que le législateur, notre législateur laïque, la récuse, à juste titre, me semble-t-il, et que le document de la Fédération protestante de France la récuse aussi, au motif que permettre à des couples d'hommes, à des couples homosexuels d'hommes, d'avoir des enfants via la gestation d'une femme, ça pose des problèmes, alors inacceptables. Soit on achète le ventre de la gestionnaire, soit même de façon plus précise, je prends un simple cas, une personne donc, qui accepte de porter, d'être enceinte, de porter le fruit d'un ovule fécondé par un tiers, de le porter, et qui signe tous les papiers du monde que vous voulez pour dire que lors de la naissance de l'enfant, elle se séparera de cet enfant, ne le considérera pas comme tel. Si cet enfant devait être mal formé, que se passera-t-il ? Que se passera-t-il ? Voilà. Alors, je lis les 5 dernières lignes de la conclusion, je les lis. Le protestantisme récuse une éthique purement naturelle, selon laquelle ce qui est ce qui doit être. Il récuse tout autant une éthique technicienne, selon laquelle ce qui est faisable est ce qui doit se faire. Au sens de la Bible et dans l'esprit de la Réforme, la liberté n'est pas à confondre avec l'individualisme sans limite et avec la loi de l'offre et de la demande qui revient à la loi du plus fort. La liberté est toujours articulée à la responsabilité envers Dieu et envers nos prochains. Elle ne peut se vivre que dans l'amour de Dieu et du prochain. Je vous remercie.